Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europe 1,
Europe 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une heure de vadrouille. Tendez l'oreille, on va écouter le monde changer. Avec d'abord ce gros changement qui s'est finalement déroulé sans accroc cette semaine, l'installation d'un nouveau président à la Maison-Blanche. Donald Trump a filé, laissant un courrier sur le bureau ovale, c'est la seule tradition qu'il ait respectée. Et l'ancien président est allé s'installer en Floride, on va y faire un petit tour aussi. Puis avec Nicole Bacharan, on évoquera l'arrivée doublement historique d'une femme noire, Kamala Harris, au poste de vice-présidente. Autre changement, le grand patron chinois Jack Ma est réapparu après 3 mois d'absence totale des radars. L'excentrique fondateur du géant du commerce en ligne Alibaba avait eu l'imprudence de se montrer un peu trop indépendant de la ligne tracée par Pékin. Il a dû se faire gronder, le revoilà plus sage. Vous vous souvenez sûrement de ce grand changement il y a 10 ans, les Égyptiens qui occupaient la place Tahrir au Caire, obtenant le départ du dictateur Moubarak. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? On va entendre les jeunes Égyptiens et l'écrivain Khaled Al-Ramissi. Le pays est à nouveau bouclé, mais ça n'était pas une révolution pour rien. Enfin, on sera aussi en Afghanistan qui espère un changement avec l'arrivée d'une nouvelle administration américaine. En attendant, les attentats des extrémistes ciblent souvent les universités et les écoles. Voilà pour les reportages. On fera aussi une petite vadrouille musicale dans l'univers d'Urban Village, un super groupe sud-africain. Quant à Joseph, dans un contre-emploi savoureux, il nous emmènera sur des lieux underground. Les carnets du monde sont ouverts et on prend la direction de Palm Beach.
Europe 1, les carnets du monde.
La présidence de Joe Biden a démarré sur les chapeaux de roue avec des dizaines de chantiers jugés prioritaires, parmi lesquels la lutte déterminée contre la pandémie, basée cette fois sur la science, un plan d'aide d'urgence à l'économie et aux Américains, notamment une aide alimentaire dont 1 foyer sur 7 a besoin, transition énergétique, climat, réforme radicale de l'immigration, la nouvelle équipe est au travail. Et pendant ce temps, Donald Trump a pris ses quartiers, non pas dans sa ville de New York où il n'est pas vraiment le bienvenu, mais en Floride, où l'on retrouve Aviva Fried. Bonjour Aviva.
Bonjour Sophie.
Le clan Trump s'installe à Palm Beach, qui fait un peu figure de refuge pour Donald Trump. Il est en terrain conquis.
Oui, d'ailleurs, il a été plutôt bien accueilli. Les supporters de l'ex-président s'étaient massés sur la route qui relie l'aéroport de Palm Beach au club privé où Donald Trump va établir sa résidence, à Mar-a-Lago. Des centaines de fans inconditionnels avec chapeaux estampillés « Make America Great Again » ou des drapeaux affichant la tête de Trump sur le corps de Rambo. Ça fait un peu peur, mais ça montre bien l'adoration que beaucoup en Floride portent à Donald Trump, comme Jennifer, qui ne pouvait pas imaginez manquer le retour du plus célèbre habitant de la ville.
Je suis toujours heureuse quand il est à la maison. Je le remercie beaucoup d'avoir renoncé à sa vie privée pour nous, d'avoir renoncé à sa vie paisible pour nous. Il mérite de se reposer. Il mérite de ne pas être sous un microscope comme il l'a été à Washington pendant 4 ans.
Alors, on l'entend, beaucoup d'amour, mais aussi déjà, Aviva, une querelle de voisinage.
Et oui, la venue d'un personnage comme Donald Trump ne fait effectivement pas que des heureux. Beaucoup de voisins de l'ancien président ne veulent en fait pas qu'il s'installe à Mar-a-Lago de manière définitive. D'abord parce que cela représente un cauchemar logistique puisqu'il aura toujours un certain nombre d'agents de sécurité, certaines procédures un peu envahissantes. Et puis, on craint aussi que cela crée une sorte de tourisme trumpiste qui bouleverserait les habitudes de Palm Beach. Ici, les maisons coûtent très cher, alors forcément, les propriétaires n'ont pas envie de voir leur propriété envahie de touristes ou de se retrouver bloqués dans la rue. C'est en tout cas ce que ressent Catherine, qui est née ici et y a vécu toute sa vie.
Ça va sans doute rompre l'ambiance très tranquille, très vacances pour laquelle Palm Beach est célèbre. Ça va sans doute attirer ses supporters qui viendront juste pour l'apercevoir en train de déjeuner ou autre. Ça va sûrement changer l'atmosphère de la ville, alors je suis contre sa venue.
Et ben voilà, elle en a l'air presque désolée. De toute façon, Trump n'a pas vraiment le droit de vivre à Mar-a-Lago, expliquez-nous.
Oui, c'est bien là le problème. Un accord passé entre Donald Trump et la ville de Palm Beach interdit en principe à quiconque de séjourner à Mar-a-Lago plus de 21 jours par an. Tout simplement parce que Donald Trump avait acheté la résidence qui était privée, mais comme à son habitude, il ne voulait pas payer trop d'impôts. Il voulait donc diviser le domaine en plusieurs lotissements, maisons ou autres. Alors imaginez l'horreur pour les voisins qui ont fait interdire le projet. Et du coup, Donald Trump a négocié l'aménagement en club privé, limité à un certain nombre de membres, et s'est donc engagé à ce que personne ne réside sur place. Les voisins actuels n'ont pas manqué d'envoyer par voie d'avocat un courrier à la ville lui rappelant son obligation de faire respecter l'accord, et ils n'ont pas l'intention de lâcher, comme nous l'explique Bob, qui réside sur l'île depuis toujours.
He's the ex-president now. He's a billionaire.
C'est l'ancien président maintenant. C'est un milliardaire, donc il peut emménager partout où il veut. Et s'il ne se plie pas aux lois, alors il devra en subir les conséquences, payer les impôts qui en découlent.
Voilà, payer les impôts ou trouver une autre maison, c'est sans doute la solution, mais pour y faire quoi ? Alors jouer au golf, sans doute, mais pas seulement.
Oui, alors le golf, ça c'est à peu près sûr. Hein. Donald Trump a quand même joué au golf 308 fois au cours de son mandat, c'est-à-dire qu'il a passé quasiment un quart de son temps de président au golf. Mais pour le reste, il se dit ici que l'ancien président va constituer une espèce de cour en Floride, avec des proches conseillers, ses enfants, des alliés politiques. La Floride, bah, c'est un terreau propice à ce projet. L'État est favorable à Trump, il l'a d'ailleurs remporté confortablement en 2020. Et puis, surtout, la plupart de ses proches ont aussi migré vers ce qui est perçu comme une terre d'accueil trumpiste. Sa fille Ivanka a acheté une propriété sur une île pas loin de Palm Beach. Donald Jr. et sa compagne se cherchent aussi une propriété dans la région.
Et la cour, comme vous dites, va au-delà de la famille. Hein.
Oui, on y retrouve aussi des personnalités conservatrices, des journalistes, des politiques, des gens qui adulent Donald Trump. Et en fait, tout ce petit cercle de Floride va permettre à Trump de se remettre en selle et pourquoi pas de créer un nouveau parti politique, il l'a évoqué, ou alors tout simplement de préparer sa campagne pour 2024. Il l'a dit en partant, je reviendrai d'une manière ou d'une autre et la Floride pourrait lui permettre de se ressourcer, sous réserve bien sûr que la justice lui en laisse les moyens. Il a pas mal d'affaires qui devraient le rattraper assez rapidement.
Eh ben, on n'a pas fini de parler de Donald Trump. Merci beaucoup, Aviva. À bientôt.
À bientôt, Sophie.
Et bonjour, Nicole Bacharon.
Bonjour, Sophie.
Politologue, historienne des États-Unis et ancienne chroniqueuse des carnets, mais oui, un très bon souvenir.
Oui.
Merci d'être avec nous.
Également.
Cette semaine de transition est historique à beaucoup d'égards, mais notamment et peut-être surtout parce que pour la première fois, c'est une femme qui occupe la vice-présidence et qui plus est une femme noire, Kamala Harris.
Ah, c'est extrêmement important historiquement. C'est le deuxième poste le plus élevé dans le gouvernement américain. C'est une femme qui, s'il arrivait quelque chose à Joe Biden, serait présidente des États-Unis, une première incroyable. Et dans 4 ans, si Joe Biden va toujours bien et ne se représentait pas, elle serait quasiment la candidate, en tout cas la mieux placée, pour être réellement présidente des États-Unis.
Ça veut dire qu'avant même d'avoir commencé à gouverner, on peut dire que Kamala Harris va s'inscrire dans l'histoire au même titre que Rosa Parks, Martin Luther King, Malcolm X ou Barack Obama ?
Voilà, Kamala Harris, c'est une femme qui a fait exploser un nouveau plafond de verre, une nouvelle limite. Et c'est vrai que c'est déjà une icône, bon, vous l'avez vu, hein, elle est belle, elle est charismatique, elle bouge bien, très californienne, mais elle a une carrière vraiment solide derrière elle dans la justice. Brève carrière de sénateur et maintenant à la porte du bureau ovale, c'est absolument historique.
Elle est issue de l'immigration, hein, fille d'immigrés de Jamaïque et d'Inde. Elle n'est pas descendante d'esclaves. Est-ce que c'est important pour les Américains, ça ?
Écoutez, je pense que ça facilite un peu son ascension, comme ça l'avait fait pour Barack Obama, dont le père était kényan. C'est vrai que l'histoire de l'esclavage aux États-Unis est tellement douloureuse qu'il y a des ressentiments forts de part et d'autre. Et au fond, elle, Kamala Harris, même si elle se revendique avec raison noire américaine, elle ne porte pas ce lourd héritage. Et peut-être que ça facilite un peu une sorte d'apaisement, si ce n'est général, mais disons large.
Elle n'a pas fait l'unanimité hein, en Californie, notamment comme procureure parmi les communautés noires et latinos. Certains lui reprochaient de ne pas trop se mouiller hein, finalement sur les sujets polémiques, de ne pas toujours être très progressiste.
Oui, c'est vrai, elle est restée vraiment prudente, elle est restée attachée à la loi, elle n'a pas débordé. Alors elle a pris des initiatives comme de faire améliorer le salaire des avocats commis d'office, qui très souvent ne se donnent pas beaucoup de mal, mais elle a été très prudente, par exemple, pour ne pas se mettre la police à dos quand il lui arrivait des accusés, accusés de crimes contre la police. Elle a la réputation d'être dure, compétente, travailleuse. centriste et pensant bien à son propre avenir.
Et en tout cas pionnière, elle ouvre la voie. Je serai peut-être la première à ce poste, mais pas la dernière, disait-elle en s'adressant aux petites filles, au lendemain de l'élection en novembre. Nul doute que son bilan sera très surveillé. Merci beaucoup Nicole Bacharan. Je rappelle deux de vos nombreux ouvrages, Les Noirs américains, des champs de coton à la Maison Blanche, qui donne un éclairage sur tout ce qu'on vient de dire, et puis le petit dernier, First Ladies, écrit avec Dominique Simonet chez Tempus. Merci Nicole, à bientôt.
Merci Sophie.
À suivre, la disparition étrange de Jack Ma, grand patron chinois, fondateur d'Alibaba. 3 mois sans nouvelles, et puis le revoilà.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Ça ne peut arriver qu'en Chine, ou en tout cas dans bien peu d'endroits, la disparition pure et simple des radars du plus gros patron du pays pendant 3 mois. Et hop, il a réapparu. Je veux parler de Jack Ma, l'homme le plus riche de Chine, fondateur du géant du commerce en ligne Alibaba. Bonjour Sébastien Lebelzik.
Bonjour Sophie.
Alors qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de mystères encore, mais c'est pas la première fois que de grands patrons disparaissent. Vous allez nous éclairer dans la mesure du possible sur ce qui arrive à ces milliardaires déchus, parfois arrêtés et qui s'envolent du jour au lendemain. Parlons de Jack Ma. On a donc fini par le retrouver mercredi dernier après 3 mois de silence. Personne ne savait où il était.
Oui, c'est un peu devenu le feuilleton de l'hiver ici en Chine. On n'avait plus de nouvelles de Jack Ma depuis le mois d'octobre et toutes les hypothèses étaient sur la table. Enlèvement, fuite à l'étranger, arrestation ou simplement une mise au vert. Jusqu'à cette semaine, effectivement, où il a réapparu dans une petite vidéo très courte diffusée sur les réseaux sociaux en Chine et où, surprise, comme si de rien n'était, il rend hommage aux enseignants des zones rurales. Un discours totalement décalé pour un homme sorti des radars depuis si longtemps, et bien sûr aucune allusion à cette disparition. On ne l'a pas entendu beaucoup depuis cette vidéo. Écoutez.
Depuis 5 ans, chaque année, nous rendons hommage aux enseignants auxquels nous remettons des prix. Nous leur adressons nos remerciements et notre gratitude. À cause de l'épidémie cette année, nous ne pouvons pas nous rencontrer, mais nous tenons nos promesses et notre respect pour les enseignants reste intact.
Alors ça sonne un peu comme un discours commandé ça, c'est dans les clous comme il faut.
Oui, tout à fait. Ouais. Le turbulent Jack Ma que l'on voit en pullover noir, l'air bien sage et qui salue ainsi indirectement l'action du parti et l'unité de la Chine. C'est surtout un changement de ton complet par rapport notamment à son dernier discours, celui du 24 octobre dernier. Un discours prononcé cette fois à Shanghai devant un parterre d'entrepreneurs et d'hommes d'affaires. Ou plutôt, on pourrait même dire un show, parce que comme il en avait souvent l'habitude, un show où il a pris l'habitude de critiquer même à demi-mot la politique menée par le gouvernement chinois, avec une tonalité et un aplomb qui n'a rien à voir avec le Jack Ma que l'on a vu cette semaine.
La Chine compte beaucoup de grandes banques. Elles sont comme de grandes rivières ou les artères de notre corps. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de plus de lacs, d'étangs. Sans l'apport de ces parties-là de l'écosystème, nous mourrons inondés ou nous mourrons de sécheresse. Ainsi, aujourd'hui, notre pays court le risque de manquer d'un système financier sain. Il nous faut le construire sans nous soucier des risques financiers systémiques. Toute bonne innovation ne craint pas la réglementation, mais elle pâtit d'être soumise à une réglementation à l'ancienne. On ne peut pas gérer une gare comme un aéroport.
Voilà, alors c'est le genre de critique qui passe très mal en Chine. En gros, il accuse le gouvernement d'être arriéré, de ne pas soutenir les entrepreneurs, de penser davantage à la régulation plutôt qu'à l'innovation et à mettre des barrières.
Et dans la foulée, il avait été convoqué par les autorités,
Oui, voilà, il était devenu même invisible et silencieux, même sur Twitter. Et puis en décembre, une enquête anti-monopole avait été ouverte contre sa filiale de banque en ligne et contre Alibaba. Mmh. Des déboires qui lui ont sans doute coûté son titre de première fortune de Chine, malgré un matelas tout de même estimé à 58 milliards de dollars.
Oui, ça va, il est richissime. Rappelez-nous d'où vient Jack Ma, cette saga Jack Ma.
Alors à 56 ans, Jack Ma c'est le plus célèbre homme d'affaires de Chine. Il est même le symbole du self-made man pour ses compatriotes, créateur d'Alibaba en 1999, ce mastodonte du commerce électronique qui est devenu depuis le plus grand groupe d'Asie. Mais Jack Ma c'est aussi donc cette success story quasi à l'américaine, une ascension à partir d'un milieu pauvre, un père peinant à faire vivre sa famille, un bac raté 2 fois, les petits boulots, professeur d'anglais en province, jusqu'à donc cette cette création d'Alibaba dans un appartement avec seulement 60 000 dollars qu'il avait emprunté à des amis. Et il raconte à l'envi même avoir raté 10 fois son concours d'entrée à Harvard. Il aime distiller d'ailleurs depuis ses bons conseils dans le monde entier, comme ce discours qu'il avait prononcé en 2017 quand il était alors au sommet de sa gloire.
Nothing is free.
Rien n'est gratuit. Et si vous voulez réussir, il faut en payer le prix. Ça a pris 18 ans à Alibaba pour arriver à ce que nous sommes. Oui, nous avons de la chance. Mais on a travaillé beaucoup plus dur que la plupart des gens. Nous n'avons jamais bien dormi ou été au calme le soir.
Alors, 3 mois de disparition pour Jack Ma. Mais ce n'est pas une première. Hein. Je le disais tout à l'heure, il y a d'autres milliardaires chinois qui ont disparu et parfois plus longtemps que ça. Hein.
Oui, c'est un peu, on pourrait dire, toute la difficulté, hein, le grand écart entre les fortunes de Chine et un régime communiste qui veut à tout prix garder le contrôle. C'est un peu le « je t'aime, moi non plus ». Et d'ailleurs, Jack Ma avait bien résumé cette relation très particulière entre le régime communiste et ses milliardaires. Il disait en 2007 « ma philosophie consiste à être amoureux du pouvoir, mais sans jamais l'épouser ». On le voyait quand même parfois dans les allées du Palais du Peuple à Pékin, le quotidien du peuple, d'ailleurs le journal officiel du parti, avait révélé en 2018 que Jack Ma était bien membre du Parti communiste, comme d'ailleurs plus de 90 millions de Chinois. De son côté, Xi Jinping, lui, il dit « le patron, c'est moi ». Le président chinois surveille de très près ces grandes entreprises pour qu'elles ne s'émancipent jamais du parti. Des dizaines de milliardaires ont ainsi disparu ou ont été arrêtés ces dernières années, notamment depuis le lancement en 2013 de la campagne anticorruption lancée par le président Xi Jinping. Des dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées sous divers prétextes. Ça va de l'ancien patron d'Interpol au président d'une compagnie aérienne, d'anciens ministres ou un grand promoteur immobilier qui est depuis exilé aux États-Unis. Le président chinois est allé chercher toutes ces voies critique, c'est corrompu aux quatre coins du monde dans le cadre de ce qu'il appelle en fait une chasse aux renards. Écoutez à ce sujet Grégory Louvel, il est avocat à Pékin.
Les enquêtes ont tendance à s'accélérer dans le cadre de la lutte anticorruption. On observe qu'à l'étranger, notamment aux États-Unis et en Europe, les enquêtes se font contre les sociétés et rarement contre les individus. Et en Chine, c'est le contraire. C'est avant tout contre les individus et rarement contre les sociétés. Donc il est facile d'en tirer comme conclusion que on vise pas tant l'activité économique de ces sociétés, mais plutôt les activités potentiellement politiques derrière ces sociétés. Je pense qu'il y a une infinité de scénarios possibles. Il est évident que la tentation de transformer cette lutte contre la corruption en chasse aux sorcières est extrêmement forte. La non-communication et le refus de communication du gouvernement chinois sur ces sujets-là laissent libre cours à l'imagination.
À propos de refus de communication, Sébastien, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Jack Ma pendant ces 3 mois et quel est le deal avec Pékin pour qu'il puisse refaire surface comme ça cette semaine.
Oui, on le saura sûrement jamais, j'imagine. Officiellement retraité à 56 ans, il va se consacrer à sa fondation, à ses activités philanthropiques comme l'aide aux professeurs, clin d'œil à son discours de la semaine. On ne l'a plus entendu d'ailleurs depuis, il s'agissait certainement de montrer qu'il est toujours là, mais qu'il sera désormais bien sage et plus de sorties intempestives dans les médias ou de discours comme ça dans les tribunes publiques. On est donc très loin du flamboyant Jack Ma qui en 2019, pour son départ à la retraite, s'était offert un spectacle géant où il était monté sur scène pour jouer les rockstars. Un patron vraiment iconoclaste, donc, mais qui trouvera là peut-être, on ne sait jamais, une nouvelle carrière.
Et on se quitte donc sur ce rock signé Jack Ma himself à la guitare et au chant. Merci Sébastien, à bientôt.
Merci Sophie.
La suite, c'est encore de la musique, mais sur un autre continent. Angèle Châtelier nous rejoint et elle nous emmène en Afrique du Sud.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Et voilà notre page culturelle précieuse pour entendre autrement les vibrations du monde, vibrations musicales aujourd'hui. Bonjour Angèle Châtelier.
Bonjour Sophie.
C'est parti pour une grande balade musicale. Vous nous emmenez en Afrique du Sud aujourd'hui.
Oui, plus précisément à Soweto, situé à 15 km de Johannesburg. L'histoire de cette ville est intimement liée à celle de l'apartheid. Elle a été créée dans les années 50 pour que des personnes exclusivement noires y habitent.
Ce qu'on appelle un township.
Exactement. Mmh. Aujourd'hui, avec presque 1 million d'habitants, elle est devenue un véritable village urbain. Alors le nom du groupe que j'avais envie de vous faire découvrir s'appelle Urban Village. Siaokata. Oh, yeah. Dans cette chanson, Urban Village fait honneur à la musique traditionnelle zoulou que l'on appelle l'Izikatamiya. C'est ce qu'on entend, ce mélange de voix masculines et harmonieuses.
D'ailleurs, toute l'œuvre d'Urban Village s'inspire de la culture zoulou depuis son commencement.
Oui, car c'est Lerato Litshaba, le guitariste, qui a initié le groupe et à l'âge de 13 ans, alors qu'il habite dans un foyer de travailleurs à Soweto, il entend depuis sa fenêtre du maskandi, de la musique zoulou. Cela le fascine et il ne quitte plus sa guitare. Avec ses autres musiciens, ils viennent de dévoiler un album où toutes les couleurs musicales se mélangent.
Je suis sûre que tout le monde bouge chez soi. Vous dites, Angèle, qu'il y a toutes les couleurs dans leur album, c'est parce qu'ils ajoutent dans leur musique des instruments et des sonorités plus modernes.
Oui, il y a l'ambition de préserver la musique de leurs ancêtres, leur culture, lui rendre hommage, mais alors on entend aussi très nettement des influences un peu plus pop, par exemple. Il y a parfois ce côté jazzy divin.
Ils sont où en ce moment, Urban Village, pendant cette crise, alors que leur album vient de sortir?
Eh bien, Lerato Litshaba, en tout cas, que j'ai pu joindre par téléphone, est à Durban, en Afrique du Sud.
En ce moment, on reste à la maison comme tout le monde, à faire de la musique depuis nos chambres. On pense au futur de notre musique, de ce nouvel album.
Et vous venez de Soweto. Elle est comment, votre ville?
Soweto est une ville vibrante, avec plein de cultures différentes, plein de monde. J'ai choisi de faire de la musique car elle permet de faire passer beaucoup de messages partout dans le monde et partager toutes nos cultures.
C'est Lerato Litshaba qui écrit la plupart des textes. Et dans cet album, son message, c'est celui de la liberté. Que la jeune génération puisse y avoir droit, qu'elle se l'approprie. Leur album Udundolo vient de sortir et ils devraient venir en France bientôt dès qu'ils le pourront. Car ils étaient programmés cette année au Festival de Découverte, les Trans Musicales de Rennes.
C'est le petit dernier album d'Urban Village. Chouette, chouette, chouette découverte.
Ouais.
Merci Angèle.
Merci Sophie.
Et dans quelques instants, on sera sur la place Tahrir, en plein cœur du Caire. Vous vous souvenez cette révolution magnifique qui avait fait tomber le dictateur Moubarak? C'était il y a 10 ans et on fait le bilan.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Que reste-t-il de la révolution 10 ans après le soulèvement des Égyptiens contre le régime de l'époque et tout le système mis en place par Hosni Moubarak? Des milliers de citoyens de tous âges réunis sur la place Tahrir pendant des semaines, ces images avaient fait le tour du monde. Le dictateur était tombé, faisant naître d'immenses espoirs d'une liberté retrouvée. Le président suivant, élu, était issu des frères musulmans, chassé à son tour, mais cette fois par un autre militaire, le maréchal Al-Sissi, toujours en place. Finalement, un dictateur en a chassé un autre. Ces 10 ans de la révolution seront-ils fêtés demain? Reportage au Caire d'Ariane Navrieux.
10 ans plus tard, la place Tahrir est toujours un énorme rond-point au centre du Caire, où les piétons, ces intrus, n'ont pas d'autre choix que slalomer entre les flots de voitures. Mais pour ceux qui ont connu cette place de la Libération en 2011, tout a changé. Des rangées de palmiers, des bancs, un parking souterrain, du gazon et surtout en plein milieu, un obélisque de l'époque de Ramsès II. Il est là depuis un an, caché sous une bâche et entouré de quatre sphinx, eux aussi dissimulés dans des caisses en bois. J'ai voulu m'approcher et là, quatre soldats m'ont bloqué.
Non, non, c'est interdit.
Et je peux m'asseoir sur la place ?
Non, question de sécurité. Une fois inauguré, les gens pourront prendre des photos. Oui, ce sont les ordres.
Personne ne sait quand on pourra à nouveau s'y promener librement. Ce symbole des révolutions égyptiennes est à l'image du pays, sous contrôle total du maréchal Al-Sissi. Après avoir chassé les frères musulmans, il mène depuis 2013 une répression sans précédent contre la société civile. Les opposants, journalistes, avocats, sont qualifiés de terroristes. Dans une banlieue populaire du Caire, le champion de karaté Khaled Sadouma ne se sentait pas concerné. Mais il y a 6 ans, sa vie a basculé.
Ils ont défoncé la porte en fer. D'un coup, l'appartement s'est rempli de policiers, masqués et armés jusqu'au cou. Ils ont tout cassé.
C'était la sécurité d'État, à la recherche de deux fils de Khaled et Safa, deux ados de 17 et 19 ans.
Ils ont tiré Ahmed de son lit. Ils m'ont dit « tu bouges pas » et il a disparu pendant plus de 2 mois.
Dès qu'il est entré dans la sécurité d'État, ils lui ont bandé les yeux et l'ont mis sous pression. Il a subi toutes les formes de torture, mais la plus fréquente, c'était l'électricité.
Leur seul tort, c'était qu'ils apparaissaient sur les photos d'un jeune qui avait été arrêté dans une manif, des photos dans un mariage à l'école. Donc ils ont attrapé tous les enfants qui étaient dessus. Ils n'avaient aucun lien avec la politique. Mes fils allaient du sport à la maison et de la maison à l'école, c'est tout. On pensait qu'ils sortiraient au bout de quelques mois, sauf qu'Ahmed a été condamné à mort. On a organisé une campagne pour faire pression. 6 ambassades se sont mobilisées et sa peine a été réduite à 15 ans de prison. Il n'y a pas de justice, c'est que de la politique.
Comment vivre après avoir passé sa jeunesse sans raison derrière les barreaux ? Morsen Mohamed, lui aussi, a été arrêté à 19 ans. Il voulait protéger une étudiante frappée par un policier. Pendant ses 5 années de prison, cet étudiant en commerce se plonge dans la poésie. Il vient de publier son premier recueil.
Je n'écrivais pas en pensant à la révolution, mais de fait, ce recueil de poèmes est un enfant de la révolution. La seule chose qu'on ne peut pas enfermer, ce sont les sentiments, les idées, et la poésie est un moyen de les libérer. Certes, la révolution a échoué, elle n'a pas atteint ses objectifs, mais elle est toujours là, présente. Pour moi, ça veut dire me chercher, être en accord avec moi-même et le monde qui m'entoure.
Pour beaucoup, la révolution a servi de déclic. Si le dictateur Moubarak, en place depuis 30 ans, a pu tomber en quelques jours, alors tout le reste peut changer. Sarah Carr était journaliste il y a 10 ans. À l'approche de la quarantaine, elle est devenue haltérophile et a transformé son appartement en salle de sport.
Quand j'étais journaliste, j'étais déprimée. J'avais tout le temps peur d'être arrêtée. Je n'ai aucune prise sur ce qui se passe dans ce pays. Mais je peux initier un changement ici, dans mon corps. Si on ne se marie pas et qu'on ne trouve personne, on veut être indépendante, physiquement indépendante. Pour moi, c'est une priorité, et pour beaucoup de mes clientes. Et j'adore voir à quel point les gens sentent rapidement ce changement, combien ça leur fait du bien. En moins d'un mois, ils se sentent plus en contrôle sur eux, sur leur santé. Pour moi, c'est très inspirant.
Ces révolutions intérieures peuvent sembler anecdotiques. En réalité, elles annoncent des changements profonds de la société égyptienne, explique le chercheur Youssef El-Chazli.
Aujourd'hui, si on se dit qu'est-ce qui reste de la révolution égyptienne, c'est très facile de se dire pas grand-chose. Mais si on regarde en fait la vie des gens qui y ont participé, les participants ordinaires, eh ben ça a eu des effets complètement fondamentaux sur leur manière d'être, leur manière de concevoir leur place dans la société. Ça participe au niveau individuel d'une expérience de transformation. Il y a une remise en cause de la manière d'éduquer ses enfants, ou d'inclure les enfants beaucoup plus dans leur volonté, ce qu'ils aimeraient faire, d'être aussi un peu peut-être plus critique envers la religion. Tout ça fait partie des vies ultérieures de la révolution. Mais ces effets, ils sont très difficiles à établir au bout de 10 ans.
Cet esprit critique, voire de révolte, agite aujourd'hui les réseaux sociaux, où les mobilisations, notamment féministes, se sont multipliées, avec en première ligne la génération qui avait 10 ans lors de la révolution. Au Caire, Ariane Lavrieux, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et on retrouve Ariane depuis le Caire. Bonjour Ariane.
Bonjour.
D'abord, quelle est l'ambiance en cette veille de 25 janvier ?
En apparence tranquille, cette date anniversaire ne fait pas la une, il n'y a pas d'appel à manifester, mais son ombre plane sur la ville. Dans le centre où je me trouve, il y a beaucoup plus de policiers, plus de contrôles dans les rues, même des visites d'appartements qui peuvent déboucher sur des arrestations. C'est le cas chaque année à l'approche du 25 janvier, depuis le retour des militaires au pouvoir. C'est un mois où beaucoup de jeunes évitent le centre, la place Tahrir.
10 ans plus tard, les ONG, l'ONU et même le Parlement européen sont unanimes. La répression est bien plus importante que sous Hosni Moubarak. La torture est systématique, il y a des milliers de disparus. Est-ce que certains vont jusqu'à regretter finalement d'avoir mené cette révolution ?
C'est une question difficile parce qu'on ne peut pas nier le désespoir face à un régime qui tous les jours emprisonne, consolide les pouvoirs de l'appareil sécuritaire et du président qui a changé la constitution pour qu'il se maintienne jusqu'en 2030. Mais je vais citer Leila Swift qui est une activiste de la première heure. Pour elle, le regret n'a pas sa place car personne n'avait planifié la révolution. C'est arrivé le 25 janvier. Personne, pas même les organisateurs, ne pensait qu'ils seraient aussi nombreux, qu'ils arriveraient jusqu'à la place Tahrir et surtout, ils manifestaient à l'époque contre la police. Et là, des gens ont crier « Dégage Moubarak », mais il n'y avait pas encore de banderole, c'était spontané.
Et puis ce qu'on entend dans votre reportage, c'est que la révolution est finalement restée d'une certaine manière dans les têtes.
Oui, ces idéaux continuent d'infuser dans la société, même si le régime mène une contre-révolution politique. Il ne faut pas oublier que 60% de la population, à moins de 30 ans, a grandi au moment où toutes les paroles se libéraient. Donc on voit qu'ils ne veulent plus être enfermés dans des vieux schémas immobiles qu'ont connus leurs parents.
C'est notamment vrai des violences sexistes. Vous nous en aviez parlé il y a quelques mois dans les carnets de ce mouvement.
Oui, c'est devenu un sujet quotidien sur Internet, à la fac, à la télé. La société égyptienne n'est pas devenue subitement féministe, la justice encore moins. Mais avant 2011, c'était un combat très minoritaire ou accaparé par Suzanne Moubarak, l'épouse du dictateur, qui s'en servait pour donner une petite image moderne. Cette année, le concert d'un chanteur marocain poursuivi pour viol a été annulé parce que des milliers de femmes ont protesté contre sa venue. Des journalistes, des avocats ont été renvoyés suite à des plaintes pour harcèlement. On parle aussi d'homosexualité. Un acteur célèbre a soutenu publiquement son fils transgenre. C'était inimaginable il y a 10 ans. Ça crée des polémiques énormes, mais des anciens tabous sociétaux se sont banalisés.
Ouais, ça a bougé en tout cas. On se souvient, Ariane, que le slogan de 2011, c'était « pain, liberté et justice sociale ». Comment la situation économique a-t-elle évolué ?
Disons que les chiffres macroéconomiques sont assez bons. Il y a une croissance autour de 3%. Mais avant même la pandémie de coronavirus, la pauvreté a progressé, les inégalités aussi. Il y a eu des manifestations dans des quartiers très populaires en marge du Caire, dans les campagnes, il y a 5 mois. En fait, des millions de familles survivent pour l'instant grâce aux Égyptiens qui travaillent à l'étranger, notamment dans les pays du Golfe. Les transferts n'ont jamais été aussi élevés et ça représente presque 8% du PIB.
Merci Ariane pour ce décryptage d'une situation, on l'entend encore très difficile et en même temps, la révolution vit toujours dans les têtes et les cœurs en particulier de ces jeunes qui sont l'avenir du pays. On poursuit la discussion avec Khaled Al-Ramissi qui est lui aussi en ligne du Caire avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain et producteur, réalisateur de films. Votre roman le plus connu parmi ceux traduits en français, c'est Taxi. Alors ces 18 jours de l'occupation de la place Tahrir en janvier et février 2011, vous les avez vécus au cœur de la révolution. Vous étiez sur la place et on avait envie d'entendre votre perception d'artiste qui a fait aussi des études de sciences politiques. Ces rêves qui ont porté les Égyptiens en 2011, que sont-ils devenus ? Où sont-ils ?
Mais ils sont là. Ils sont là. Certainement, il y a du feu sous les cendres aujourd'hui. Le président égyptien a dit clairement que le 25 janvier 2011 était un mauvais remède à la suite d'un mauvais diagnostic. C'est clair que le gouvernement égyptien a peur de 25 janvier 2011 jusqu'à aujourd'hui, mais les réalités des choses dans le monde arabe, que ce feu sous les cendres est là. Il nous suffit de percevoir ce qui s'est passé durant les dernières 2 ans au Soudan, Algérie, au Liban, pour comprendre que les racines économiques et sociales de la révolution dans les pays arabes restent les mêmes. Les causes structurelles sont les mêmes qu'avant 2011.
Et en même temps, l'armée a repris tout en main et beaucoup d'Égyptiens sont partis.
L'armée a pris tout en main juste après le 25 janvier 2011. C'est vrai que ces rêves-là sont sous les cendres, c'est très clair. Mais c'était il y a 10 ans déjà. Mais durant ces 10 ans, est-ce que tout ça a été perdu ? Non, pas du tout. Le processus du développement du concept de la citoyenneté est un long processus. 25 janvier 2011 était vraiment dans ce trajet un saut énorme, un saut énorme dans ce concept de la citoyenneté. La prise de conscience des millions d'Égyptiens qui ont le pouvoir de jouer un rôle dans la gestion des affaires publiques était un moment crucial dans l'histoire moderne de l'Égypte. Cette prise de conscience, elle est là, elle est là encore.
Khaled Al-Khamissi, dans votre livre « Taxi », vous nous promeniez dans le Caire au gré de vos trajets en taxi, manière de prendre le pouls de l'humeur des Égyptiens. C'était comme un portrait impressionniste du pays où on parlait tout finalement, religion, des femmes, de la corruption, du quotidien sous le dictateur Moubarak. En fait, votre livre portait les germes de cette révolution de 2011. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez refaire le taxi test, en quelque sorte, écrire « Taxi 2 » et est-ce que ce serait très différent ?
Ce serait le même. Parce que, comme j'ai dit, les causes économiques, c'est les mêmes. Les racines des problèmes existantes en 2005, dans le moment où j'ai écrit « Taxi », sont les mêmes. Et ça, c'est très important à signaler et à essayer de comprendre aussi.
En attendant peut-être « Taxi 2 », même si c'est un peu le même, on pourra bientôt lire votre dernier roman traduit en français, « Moi, étoile filante », qui paraîtra début mars chez Actes Sud dans la collection Simbad. C'est l'autobiographie imaginaire d'un artiste peintre. Merci beaucoup Khaled Al-Khamissi d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Europe 1. À bientôt.
Merci à vous. À bientôt, j'espère.
À bientôt. Et je salue Ariane Navrieux qui était aussi depuis le Caire avec nous. À bientôt, Ariane.
Au revoir, à très bientôt.
Et la suite, c'est à Kaboul que ça se passe, auprès des étudiants afghans, de plus en plus souvent la cible des violences de tous bords.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
L'élection de Joe Biden aux États-Unis pourrait changer la donne en Afghanistan. Le nouveau secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, c'est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, a laissé paraître cette semaine la nouvelle stratégie de Washington en Afghanistan, qui passe par un réexamen complet de l'accord signé il y a presque un an avec les talibans. Concrètement, il pourrait rester des forces armées américaines après le 1er mai prochain, ce n'était pas prévu. Autre intention, affichée clairement celle-là, préserver les avancées qui ont été faites pour les femmes et les filles en Afghanistan au cours des 20 dernières années. C'est un revirement important au moment où les insurgés talibans négocient leur éventuel retour au pouvoir à Kaboul. Tout ça dans un contexte de violence permanente envers la société civile et en particulier contre les étudiants et les écoliers afghans, de plus en plus souvent ciblés par les groupes extrémistes. Écoutez ce reportage de Margot Ben à Kaboul.
Ils sont en vacances et malgré la fraîcheur hivernale, un petit groupe d'étudiants est venu se retrouver dans les jardins de l'université de Kaboul. Le 2 novembre, des hommes armés avaient fait irruption dans le département d'affaires publiques, tuant 22 de leurs camarades et blessant 27 autres.
Elle est tombée juste derrière moi. Un pied de chaise en métal lui a traversé la mâchoire. Toutes ses dents étaient cassées.
Mais ça lui a déchiré sa bouche ?
Oui.
De quoi vous parlez ?
Sarah.
Et arrêtez de dire ces choses à voix haute.
Le massacre a été revendiqué par le groupe État islamique. Elham, 22 ans, et ses amis se recueillent parfois ici pour évoquer ce qui, ailleurs, avec d'autres, est trop pénible à mettre en mots.
J'ai vu l'une de mes camarades se faire tirer dessus. Elle a été touchée à la jambe et aux deux mains. D'autres avaient les mains, le cou et même le dos disloqués.
Le bâtiment fourmille d'ouvriers. Les autorités veulent gommer toutes les traces du massacre. Mais les rescapés, eux, n'oublient pas ce jour où ils ont vu leurs amis mourir devant eux.
J'ai sauté depuis cette fenêtre du deuxième étage. J'ai rebondi sur une barre de fer avant d'atterrir par terre. Deux élèves qui étaient avec moi dans cette salle de classe sont morts. Ahmad Ali, il essayait d'aider les autres, et Erokia, qui a été abattue juste avant de sauter. J'en fais encore des cauchemars.
Des traumatismes que partagent tous les survivants, auxquels s'ajoutent, pour certains, des blessures physiques. C'est le cas de Mahrouma, toujours alitée depuis l'attentat. Elham lui rend souvent visite chez ses parents.
Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, merci. Et vous ? Bonjour, chère Mahrouma, comment vas-tu ?
Plutôt bien.
Vous avez l'air d'aller mieux ?
C'est gentil.
La jeune femme se repose sur un lit. De longs cheveux noirs encadrent son visage rond. Ses paupières ne cessent de tomber. Elle semble lutter pour rester réveillée.
Le bruit des balles résonne encore dans mes oreilles. C'était terrifiant. Mais je me suis fait le serment de retourner à l'université et de mieux travailler en cours. Et si Dieu le veut, je deviendrai ambassadrice. C'est mon rêve depuis toujours. Et quand j'irai mieux, j'atteindrai mon but. Même si j'ai peur, je continuerai.
Plus tard, dans une banlieue de Kaboul, Elham retrouve son ami Bartiar.
Comment ça se passe dans le quartier? Les talibans ont fait parler d'eux, non?
Un jour, des talibans m'ont interpellé dans la rue. Ils ont fouillé mon téléphone, ont demandé pourquoi je m'étais rasé la barbe, pourquoi mes cheveux étaient aussi courts. Je leur ai répondu que j'étais étudiant. Ils m'ont menacé. D'autres jeunes du quartier ont été harcelés aussi pour une tenue trop occidentale. Et bien sûr, on a peur que s'ils reviennent au pouvoir, on ne puisse plus étudier comme avant.
Entre les massacres de Daesh et le spectre d'un retour au pouvoir des talibans, l'Afghanistan semble se refermer à nouveau sur elle-même. À Kaboul, Margot Ben, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et on a la chance d'être avec Margot Ben qui est rentrée pour l'instant à Paris. Bonjour Margot.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Alors on a entendu ces étudiants rescapés d'un massacre dans une université en plein Kaboul. Malheureusement, ce n'est pas un cas isolé.
Non du tout, il devient en fait de plus en plus dangereux de vouloir étudier en Afghanistan. Quelques jours seulement avant ce terrible attentat à l'université de Kaboul, Daesh avait déjà revendiqué un autre attentat dans une école privée d'un quartier de l'ouest de la capitale. C'est souvent la communauté ethnique Hazara qui est ciblée par la faction afghane de ce groupe État islamique. De nombreuses écoles, lycées et centres du cours du soir fréquentés par de jeunes Hazara ont été attaqués ces trois dernières années dans ce même quartier, au point que la population s'est organisée. Alors devant les écoles, des hommes montent la garde. Leurs armes et leurs salaires sont payés grâce aux frais de scolarité des écoles privées et par les voisins.
Là, vous évoquez, Margot, des attentats perpétrés par Daesh, mais les talibans aussi ciblent parfois les écoles.
Oui, tout à fait. Alors, on se souvient par exemple de l'attaque de la prestigieuse université américaine de Kaboul. C'était en 2015. Les talibans avaient tiré sur les élèves et sur le personnel. Et puis, dans certaines provinces, le groupe extrémiste continue de brûler des écoles, particulièrement des établissements pour filles. Et puis, des enseignants reçoivent aussi parfois des menaces anonymes qu'ils attribuent aux talibans. Une professeure me racontait tout récemment avoir trouvé un matin, devant la porte de son école pour filles, un drap blanc avec cette note « Ce linceul est pour vos filles ». Et en fait, les extrémistes religieux dans leur ensemble sont un danger pour les élèves et les étudiants, particulièrement pour les filles ou pour ceux qui appartiennent à une ethnie minoritaire.
Ouais. Et alors, les négociations en cours entre le gouvernement afghan et les talibans, qui s'appellent processus de réconciliation inter-afghane, est-ce que ces négociations n'ont pas d'incidence sur les violences ?
Alors si, mais elles ont plutôt un impact négatif, car les talibans puisent justement leur force dans leur supériorité militaire contre une armée afghane exsangue et par ailleurs minée par la corruption, par les désertions. Donc ils ont au contraire renforcé leurs attaques sur le terrain pour bien montrer qu'ils ont la main. Et ces derniers mois et ces dernières semaines surtout, des dizaines de jeunes gens, justement des jeunes qui sont éduqués, ont été abattus en pleine rue, y compris dans la capitale, Kaboul. Des assassinats souvent anonyme, mais encore une fois, les autorités affirment avoir la preuve que ce sont les talibans qui en sont à l'origine. Et puis de son côté, Daesh, que le gouvernement s'était vanté d'avoir vaincu il y a un an, multiplie les attentats, en particulier dans la capitale, contre des écoles, une université, mais aussi une maternité, des fêtes de mariage, etc.
Et puis dimanche dernier, encore deux femmes juges étaient abattues dans leur voiture à Kaboul. Il y a quelques jours, le chef des renseignements afghans a attribué aux talibans la responsabilité de 18 000 attaques pour l'année 2020. Voilà, c'est énorme. On verra dans les prochains mois comment l'administration Biden s'empare de ce dossier. Merci beaucoup Margot pour ce reportage et pour votre visite. À bientôt.
Au revoir.
Après l'Afghanistan, l'Autistan, changement complet d'ambiance et de décor. On accueille Joseph Chovanac dans un instant.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Il est notre guide en Autistan, cette contrée dont il a inventé le nom et qui est en fait une manière de regarder le monde. Joseph Chovanec nous rejoint depuis la Belgique. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Alors on l'a vu, il y a eu quelques fêtes clandestines ces dernières semaines, contraires aux consignes de ne pas se rassembler trop nombreux. Est-ce qu'elles vous ont inspiré? En tout cas, vous nous emmenez dans ce monde de la nuit aujourd'hui.
Oui, ou plutôt ce qui entoure le monde de la nuit, car je vous dois un aveu, je n'ai jamais mis les pieds dans une boîte de nuit. Mais quand je voyage, je visite nombre de hauts lieux de ce qu'on pourrait appeler la contre-culture musicale, l'underground. Pour les amateurs, ces lieux forment une sorte de monde parallèle à la Harry Potter, où ils se retrouvent entre passionnés, souvent avec une forte dimension internationale.
Alors, par exemple, où êtes-vous rentré dans cette dimension parallèle ?
Parfois, les lieux sont choisis de façon utilitaire. Je repense à ce drôle de spectacle qui vous attend quand vous arrivez en Arménie, près de la frontière avec l'Iran. Mmh. Sur les murs, vous verrez des inscriptions à la peinture, assez sommaires, parfois en persan, qui vous indiquent le chemin de la discothèque. Il y a même des lignes de bus spéciales pour vous y acheminer. Mmh. Mais je crois que ce n'est pas le cas général. Dans la plupart des cas, ces hauts lieux des contre-cultures musicales ont des particularités géographiques. Ce sont des lieux où, lorsque vous y arrivez, même quand vous ne connaissez rien à la musique comme moi, vous savez que c'est là que ça se passe.
Bon, mais alors, où, Joseph, où êtes-vous allé dans une rêve partie ?
Ou plutôt à l'endroit où elle pourrait se passer. Hein. Okay. Eh bien, par exemple, l'un de ces lieux mythiques, c'est Visby, en Suède. C'est sur l'île de Gotland, la plus grande île de la Baltique. Alors, ça ne dira peut-être rien au public non scandinave, mais une fois qu'on y a mis les pieds, on reste bouche bée. Hein. J'ai eu ce moment de choc il y a quelques semaines. Mm-hmm. Je suis arrivé vers minuit, crevé par le trajet en bateau. La météo était franchement mauvaise. Oui. Mais la ville a un tel charme que j'ai passé une bonne partie de la nuit à la arpenté. Visby, c'est une ville médiévale, une sorte de Carcassonne du Nord, mais sur une île. Hein. Mmh. Et dans les ruines des bâtiments des églises médiévales, eh bien, il y a autant de pépinières musicales. Mmh. En été, Visby, c'est la capitale, la mecque des grands festivals. Si j'étais musicien scandinave, c'est là que je trouverais de l'inspiration, pas à Stockholm.
Vous avez comme ça d'autres exemples de lieux qui inspirent une culture musicale particulière ?
Oui, tout à fait. Je crois que ces lieux se ressemblent un peu géographiquement. Aux Pays-Bas, ce pourrait être la ville de Heerlen. Hein. Heerlen, que j'ai découvert il y a quelques jours, pour les initiés, c'est le berceau de la culture dite Ravel. Alors qu'il a connu son apogée dans les années 90 et 2000, mm-hmm. cette contre-culture musicale, essentiellement pour les jeunes, qui veut dire, d'ailleurs, le mot veut dire pote en hébreu. Ça montre bien l'ambiance de camaraderie. Et je crois que le choix de Heerlen comme lieu central répond à une logique similaire à Visby. C'est une ville avec des bâtiments médiévaux. Ouais. Mais qui reste marginal par rapport au grand centre urbain. Et pour les Hollandais, Heerlen a une particularité exotique unique, c'est qu'il y a des collines.
Votre plus grand souvenir, Joseph, de soirée vraiment différente et inattendue, c'est en Islande qu'il vous ramène.
Oui, et tout s'est joué totalement par hasard. Hein. Il y a à peu près 2 ans, j'étais en partance pour le Groenland. Mais j'ai eu divers soucis météo et je suis resté bloqué en Islande, à Reykjavik, aux frais de la princesse, bien sûr, ou plutôt de la compagnie aérienne. J'étais dépité, mais une dame de l'aéroport m'a dit que j'avais une chance de fou. J'allais pouvoir assister à la Mettnirganocht, en traduction libre, nuit de la culture. Hein. C'est le jour où le prix des hôtels de Reykjavik, déjà exorbitant en temps normal, quadruple, et surtout où tous les lieux de la contre-culture musicale d'Islande s'ouvrent. La ville devient une sorte de scène musicale géante ou de rave, bien sûr, à l'islandaise, c'est-à-dire avec distanciation sociale, naturelle, etc. Et dans la vie, je crois que les meilleurs moments sont ceux qui surviennent de la sorte, ceux que on pourrait désigner par le dicton islandais « Eirkem alver af fjötlum », donc littéralement « Je viens de la montagne ». En islandais, on dit ça quand on se retrouve soudainement quelque part, sans du tout comprendre ce qui se passe.
C'est ce qui vous était visiblement arrivé ce jour-là, en Islande.
Tout à fait.
Merci la météo capricieuse au passage, ça avait l'air magnifique.
Oui.
Merci Joseph, on se retrouve dimanche prochain.
À tout bientôt.
Clap de fin, c'est l'heure de refermer les carnets du monde. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Le témoin est là, je le passe. À Nicolas Carreau qui est rentré dans le studio. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Quel est le programme ?
Je reçois le patron aujourd'hui, Bernard Pivot, pour son nouveau livre. Et puis on visitera la bibliothèque de Jean-Louis Fournier, vous savez, la collecte de Pierre Desproges. Et puis on lira du Arsène Lupin, parce que c'est la mode en ce moment.
Oui, c'est très à la mode. Merci. La Voix et Livre, c'est dans quelques minutes. On vous écoutera avec plaisir avec Marc Fréjean qui a réalisé cette émission et Marion Gauthier qui m'a aidé à la préparer. On vous donne rendez-vous dimanche prochain dès 13h pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.